soul's worth is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what those weak and sunken lies, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh,
entendre le britannique Birdie et la pièce People Help the People.
Actualité culturelle exclusive à la presse, trois fois le page au TNM, c'est un texte de Luc Boulanger. Robert Lepage va recréer l'ultime tragédie de Shakespeare, Coriolan. Et deux fois plus qu'aucune, la presse a appris qu'en janvier 2019, le réputé metteur en scène signerait une nouvelle version de la pièce de Shakespeare dans le cadre de la version 2018-2019 du Théâtre du Nouveau Monde qui sera dévoilée le 9 avril. Robert Lepage sera omniprésent au TNM, sa maison montréalaise, au cours des prochains mois. À la fin de juin, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, il signera la mise en scène du spectacle Slave avec Betty Bonifaci, ou Slave, produit par Ex Machina. Le comédien reprendra ensuite son merveilleux solo 887, acclamé par la critique et le public du 23 octobre au 3 novembre, Les billets sont en vente dès demain à midi au guichet du TNM et sur le web. Aussi à Stratford, comme si ses activités au Québec ne suffisaient pas, le créateur de Vinci collabore aussi avec deux compagnies canadiennes prestigieuses. À l'invitation du directeur artistique Anthony Simolino, qui court après Lepage depuis des années, il fera son baptême du Festival de Stratford en Ontario le 9 juin, avec sa mise en scène d'une production originale en anglais de Coriolanus ou Coriolanus, mettant en vedette des acteurs canadiens. La production de Lepage à Stratford est l'une des pièces phares du festival et elle sera à l'affiche jusqu'au 20 octobre. Qui plus est, le Ballet national du Canada, BNC ou BNC, à Toronto, lui a demandé de faire la mise en scène du ballet Frame by Frame en juin, sur des chorégraphies du Québécois Guillaume Côté. Cette adaptation, cette création du Ballet national du Canada rend hommage au cinéaste Norman McLaren. Secouer Shakespeare, la version française de Coriolan, produite par le TNM en collaboration avec Ex Machina, réunira autour de la traduction de l'auteur et poète québécois Michel Garneau une toute nouvelle et imposante distribution d'interprètes québécois. Robert Lepage a eu 60 ans en décembre dernier. Or, ses débuts au théâtre dans les années 80, il ne cesse de revenir à Shakespeare. Il a signé une quinzaine de mises en scène de son auteur fétiche. Insigne honneur, il a été le premier Nord-Américain à monter Shakespeare au prestigieux Royal National Theatre de Londres. Après deux productions acclamées en 1983 et 1993 au FTA, le Festival Transamérique, Lepage revisite donc pour la troisième fois l'histoire de Coriolan, ce Romain courageux qui revient d'exil pour mieux conquérir à lui seul la ville ennemie de Coriole, Coriolaise. 887 au TNM du 23 octobre au 3 novembre prochain et Coriolan au TNM à partir du 15 janvier 2019. La chronique d'Hugo Dumas, la voix du français, s'il vous plaît. Je ne suis pas du genre à hurler en français, s'il vous plaît, quand un concurrent de la voix s'époumonne en anglais pendant les auditions à l'aveugle. C'est déjà une étape hyper stressante. Si cette personne se sent plus à l'aise dans la langue de Shakespeare, aucun problème avec ça, pourvu que le français réapparaisse pendant son parcours, bien sûr. De toute façon, personne ne gagne la voix en offrant que des prestations en anglais. Même Johan Garneau et Kevin Bazinet, probablement les champions les plus anglophiles de cette télécrochet, avaient poussé la note en français respectivement en demi-finale de la voix 2 et de la voix 3. Hier soir, le passage de Katrina Robert, une chanteuse québécoise originaire de Chelsea en Outaouais, m'a beaucoup agacée. La jeune femme de 26 ans était incapable de prononcer une seule phrase complète en français et incapable de décoder le discours enflammé que lui a fait Éric Lapointe. C'était gênant. Il y a des participants à la voix qui débarquent de Vancouver ou de Winnipeg qui s'expriment mieux en français que « la princesse de la soul », entre guillemets. Quand les coachs ont réalisé que Katrina Robert, alias Bella Cat, ne comprenait strictement rien, ils ont tous basculé vers l'anglais. Et nous avons eu droit à une belle rafale de sous-titres. Oh, elle a été excellente, Katrina Robert, sur Voodoo Woman de Coco Taylor. Probablement la meilleure performance de la soirée. C'est tout de même déprimant de constater que les deux solitudes existent encore au sein de cette génération. Comment peut-on habiter le Québec et ne pas s'intéresser une miette à la langue française? Ça me dépasse. Ce handicap nuira grandement à Katrina, qui chante pourtant comme Janis Joplin dans sa progression vers le trophée. Sa coach, Lara Fabian, devra probablement lui donner des leçons privées de français 5 soirs par semaine. Trêve de querelle linguistique, cette cinquième et dernière ronde des auditions à l'aveugle n'a pas été aussi éclatante que celle de la semaine dernière. Le rocker français Emmanuel Kreis, 37 ans, qui a remis le groupe Mr. Big sur la carte, n'arrivait pas à la cheville du métalluge Louis-Paul Gauvreau repêché par Isabelle Boulay l'an passé. Yann Brassard, 24 ans de Baie-Saint-Paul, s'est bien débrouillé avec sa reprise de Man in the Mirror de Michael Jackson. Contrairement à sa coach Lara Fabian, je n'ai pas vécu de moments mystiques avec une connexion là-haut. Un des doux moments de cette soirée a été le duo qu'a improvisé Lara Fabian avec Sherry Lynn Toka, 27 ans, sur Je t'aime. C'était émouvant. Et avez-vous remarqué à quel point le français de Sherry Lynn, né de parents philippins, était impeccable? Je ne gagerais pas un vieux deux sur les chances de la chancelante Sabrina Ramos, 34 ans, qui a refait amoureuse de Véronique Sanson. Désolée, mais c'est clair qu'elle ne traversera pas l'étape des duels qui s'amorce dimanche. Les Van Hoo, Samuel Babineau et Elisabeth Alain, que nous avons vus hier, ont été bien corrects, sans toutefois nous procurer de gros frissons d'émotion. Quatre prix pour Hochelaga, Terre des âmes. Maudy, mettant en vedette Sally Hawkins, a été sacré meilleur film. Le film Maudy, récit d'une femme de la Nouvelle-Écosse arthritique qui travaille comme femme de ménage tout en se forgeant comme artiste, a remporté le prix du meilleur film au prix Écran canadien hier soir à Toronto. Le gala soulignant l'excellence au cinéma et à la télévision comptait un grand nombre de finalistes québécois. La récolte québécoise se résume toutefois principalement aux quatre prix remis au film Hochelaga, Terre des âmes de François Girard, dont celui de la meilleure direction artistique, François Séguin, et celui de la meilleure direction photo, Nicolas Bolduc. Le film a aussi obtenu les prix du meilleur son d'ensemble et des meilleurs effets visuels. Le film d'horreur Les Affamés de Robin Aubert, qui était notamment finaliste dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation, a reçu le prix pour les meilleurs maquillages, Éric Gosselin et Marie-France Guy. Ava, de la cinéaste montréalaise d'origine iranienne Sadaf Fourougi, a valu à Bahar Nouyan le prix de la meilleure actrice dans un rôle de soutien. Le film a aussi obtenu le prix du meilleur premier long-métrage. Le prix Écran d'or pour un long-métrage soulignant les recettes au guichet les plus élevées au cours de l'année a été remis à De père en flic 2. 11 des 15 films qui avaient reçu le plus de mises en nomination sont du Québec. En plus des Affamés, les films québécois Ava, C'est le cœur qui meurt en dernier et La petite fille qui aimait trop les allumettes étaient finalistes dans la catégorie du meilleur film. Le prix de la meilleure réalisation est allé à Aisling Wash pour Maudy, qui a été préféré à Yann Lagarde pour All You Can Eat Buddha, Alexis Durand, Bro, pour C'est le cœur qui meurt en dernier, Robin Aubert pour Les Affamés et Sadaf Fourougi pour Ava. Sally Hawkins, finaliste aux plus récents Oscars pour son rôle dans The Shape of Water, a remporté le prix pour la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle pour Maudy. Elle n'était pas présente à la cérémonie. La catégorie comprenait notamment Denise Filiatro pour C'est le cœur qui meurt en dernier et la jeune Marine Johnson pour La petite fille qui aimait trop les allumettes. La ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, était sur scène pour l'annonce de la lauréate. Soulignant les personnages féminins forts, Mme Joly a évoqué le mouvement « Moi aussi », disant en français être solidaire avec toutes les femmes du milieu. Le partenaire de jeu de Sally Hawkins dans Maudy, Ethan Hawke, a quant à lui obtenu le prix du meilleur acteur de soutien. Le film est aussi reparti avec les prix du meilleur scénario original, des meilleurs costumes et du meilleur montage pour un total de 7 prix.
Je suis une autre, je frôle de jazz et de ska. Je chante en faisant des clics et des claques, des plics et des blocs, des tics et des tocs. Mais je les aux horloges, moi le faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie Charleston, Java et Square Dance. La valse à mille temps et la mazurka. Mais je les aux moi non, laisse-moi le faire disco, disco. Toutes les nuits, avec mes sous les feux de la rampe, Je garde l'espoir d'être un jour une star. Changer ma vie en fait en faisant des claquettes, claquettes. Toutes les nuits avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin. Toutes les nuits avec mes copains, on s'amuse en chantant du Gershwin. Quel est le producteur, le magnat, le mécène qui me fera faire mon premier pas sur scène? Moi j'attends mon heure, même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro Goldwyn Mayer. Tous les rêves de ma vie, je les passe au fond d'un casino, Las Vegas. Et dans mon cœur, il y a un regret qui s'appelle Broadway. Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin.
Diane Dufresne, qui reprenait la chanson de l'autruche, une pièce interprétée à l'origine par Sylvie Vartan.
Sujet libre, ils sont 20 centenaires dans une même résidence. Certains attribuent leur longévité à leurs habitudes de vie, d'autres à la chance. Après avoir survécu à 3 cancers, Jenny Burson soufflera ses 100 bougies en novembre prochain. Le secret de sa longévité? Sa tête dure, lance sa fille. Je n'aurais jamais pensé vivre aussi vieille à cause de la maladie. Mais ce n'est pas nous qui décidons, n'est-ce pas? A confié en souriant celle qui a combattu des cancers de l'utérus, du côlon et du sein au cours de sa vie. Une grande fête avait lieu hier à la résidence Le Waldorf de Montréal, dans le quartier Côte-Saint-Luc, pour célébrer l'anniversaire de 9 aînés qui atteindront l'âge vénérable de 100 ans cette année, portant à 20 le nombre de résidents centenaires. Ensemble, ces personnes totalisent plus de 2000 ans d'histoire. C'est extraordinaire à souligner. Michael Goldwax, directeur général de Sélection Retraite. Entourés de leur famille, les 20 centenaires ont reçu une lettre signée par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et une autre par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. L'une des doyennes du groupe, Emily Clyke, fêtera son 105e anniversaire en juin. En 1917, elle a survécu à l'explosion qui a fait 2000 morts et 9000 blessés à Halifax, l'événement le plus meurtrier au Canada. À la suite de cette catastrophe, Mme Clyke s'est grandement rapprochée de sa famille. Elle est d'ailleurs très fière de sa défunte sœur, la militante contre la ségrégation raciale Viola Desmond, qui figurera sur les nouveaux billets de 10 $ canadiens. « Je n'ai jamais fumé ni bu de ma vie et j'ai toujours beaucoup lu et étudié. « Je pense que c'est ce qui m'a gardé jeune », a-t-elle raconté, assise paisiblement dans son fauteuil roulant. « Ce qui m'impressionne le plus chez ma mère, c'est son intellect. Même à son âge, elle lit encore régulièrement », a mentionné son fils, Graham Clyke. De son côté, Mike Levine, qui aura 101 ans en juin, attribue notamment sa longévité au fait d'avoir grandi sur une ferme. « Pendant 25 ans, je travaillais tous les jours à l'extérieur à l'air frais. » Ça m'a permis de rester en forme, a-t-il expliqué. Encore aujourd'hui, M. Levine a une poignée de main puissante et un vif sens de l'humour. Il adore faire rire ses deux arrière-petites filles qui ne le lâchaient pas d'une semelle hier. Même si la vieillesse ne le réjouit pas, le centenaire parvient tout de même à voir cette réalité d'un bon œil. À mon âge, on n'est plus capable de faire tout ce que l'on faisait avant. Mais quand on fait quelque chose, on a tout notre temps. On n'est jamais pressé, a-t-il fait valoir. On aurait bien voulu qu'elle se rende jusqu'à 100 ans et même plus. Le Myland pleure la mort de « sa mère », entre guillemets. Figure emblématique, Ruth Wilinski a servi plusieurs générations de clients au restaurant fondé en 1932. Les résidents et commerçants du Myland sont émotifs depuis qu'ils ont appris le décès de Ruth Wilinski, morte à l'âge de 98 ans vendredi et qu'ils considéraient comme la mère du Myland. Figure emblématique du monde de la restauration à Montréal, Mme Wilinski avait fondé le restaurant Wilinski en 1932 avec son défunt mari. Le décor de l'institution est presque resté figé dans le temps depuis 1952. Le casse-croûte situé au coin des rues Clark et Fairmont à Montréal a bâti sa notoriété en partie grâce à son sandwich spécial Wilinski, fait avec de la bologne, de la moutarde et du salami. Les clients les plus fidèles ont toujours été réconfortés à l'idée de retrouver les 9 tabourets qui bordent le comptoir de l'endroit et de croiser Mme Wilinski, qui était adorée dans le quartier. Cette dernière avait repris les rênes du commerce après la mort de son mari, Mo, en 1984. « Je l'aimais beaucoup. C'était vraiment une femme old school et raffinée », témoigne Nat Scalia, qui travaille dans le café en face du Wilinski. Il va manquer quelque chose au Myland sans elle et les gens vont s'ennuyer de cette dame connue par 3 ou 4 générations dans le coin. Charles Doyle a 85 ans et il habite dans la même maison du Myland depuis 56 ans. Monsieur Doyle côtoyait Ruth Wilinski à son restaurant depuis 1952 et il affirme qu'elle était un peu comme la mère du Myland. On ne la voyait plus depuis quelques années, se désole le Montréalais. C'est triste, moi je connais ses 5 enfants et ses petits-enfants qui venaient au resto. Elle va manquer à sa famille, mais aussi aux résidents du Myland. Pascal Henrard est un client du Wilinski depuis maintenant 30 ans et confie que ce restaurant est pour lui un voyage dans le temps. « Aussi loin que je me souvienne, Ruth était là, raconte-t-il, avec ses 2 fils, et puis sa fille, des grands silences derrière le comptoir. Quand j'avais fini mon premier spécial, Ruth n'avait pas besoin de dire grand-chose. » Un petit geste de la tête et elle déposait mon 2e spécial, comme d'habitude. Franck Gattuso, un commerçant situé tout près du restaurant, connaît bien les Wilinski. Chaque matin, il va chercher son café-filtre dans cette entreprise. Ruth était travaillante, incroyable et inimitable, exprime avec émotion M. Gattuso. J'aimerais faire autant qu'elle avec mon commerce. Mais elle était trop originale et unique. J'ai beaucoup de respect pour cette femme. Les employés du Wilinski seront en période de deuil jusqu'au vendredi 16 mars. D'ici là, le petit commerce du Myland, qui est devenu une figure emblématique de Montréal, restera fermé. Les funérailles de Mme Wilinski ont été célébrées hier dans la plus stricte intimité, selon l'avis de décès qui a été diffusé par ses proches. Lettre ouverte au médecin, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Denise Bombardier. À la suite de ma chronique de samedi, jamais je n'aurais cru que tant d'entre vous réagiraient avec une telle violence au fait d'aborder le problème des ententes salariales vous concernant. Certains commentaires m'obligent à m'interroger sur votre éthique. Un cancérologue outré précise qu'il me soignera « quand même » entre guillemets, le jour où je me retrouverai dans son bureau. Entre parenthèses, c'est-à-dire où j'aurai un cancer. C'est inqualifiable. Les médecins sont de grands sorciers qui, par profession, affrontent la mort au quotidien. Pour cela, la société leur accorde un statut d'élite. De cette reconnaissance découle l'acceptation sociale de revenus conséquents. Qu'ils soient plus élevés que ceux de bon nombre de professionnels n'est pas scandaleux. Nous vivons dans un monde déspiritualisé, déshumanisé, où l'argent est devenu le premier critère de réussite et d'importance sociale. C'est pourquoi le mot « vocation » s'applique peu désormais à votre profession. Mais loin de moi l'idée de généraliser. Bon nombre d'entre vous auraient pu signer ma chronique de samedi. Car je sais que vous êtes nombreux à vivre avec malaise ce pactole qui vous tombe dessus. D'où l'hostilité exprimée par la population et que vous comprenez. Les citoyens futurs malades vous craignent. Ils dépendent de vous. Vous incarnez leur espoir en cas de maladie grave. Vous êtes les seuls à pouvoir les délivrer de leur angoisse. Les malades savent que leur vie est entre vos mains. Cela n'a pas de prix. Or, vos ordres professionnels qui parlent en votre nom, ou plutôt au nom de votre portefeuille, oubliant le serment d'Hippocrate, ne possèdent ni l'empathie, ni la sensibilité, ni la grandeur d'âme digne des qualités rattachées à la profession médicale et idéalisées à travers l'histoire. Et vous qui les appuyez spontanément et qui vous plaignez de travailler trop et dans des conditions inacceptables, devriez comprendre que l'incurie des gestionnaires et la vétusté de nombreux hôpitaux employant un personnel réduit, épuisé comme vous, ne sont pas sans rapport avec les milliards du budget de la santé qui vous sont octroyés par vos collègues politiciens. Dans le secteur public québécois, la distribution de l'argent est affaire de hiérarchie. Vous êtes placé au haut de l'échelle. Comprenez-vous que si le Québec était plus riche, vos salaires seraient plus élevés, mais les citoyens ne se révolteraient pas car eux aussi seraient financièrement plus à l'aise. Je sais que la grogne monte dans vos propres rangs. Certains d'entre vous ont osé prendre publiquement la parole. Devant le déferlement de commentaires déchaînés de médecins sur le site du journal et qu'on a dû effacer selon des règles qui nous gouvernent, j'imagine le courage de ces médecins travaillant avec ses collègues vindicatifs. Le Québec ne peut pas vivre dans l'hostilité face au corps médical. Les spécialistes du chantage aveuglés par leur rage contre ceux qui les critiquent doivent retrouver leur sang-froid. Le Québec ne survivra pas à un tel affrontement émotif. Vous êtes nos médecins et nous sommes vos patients. La force de cette réalité impose un minimum de dignité et de raison retrouvée. Et c'est avec la lettre ouverte aux médecins signée Denise Bombardier, publiée dans le Journal de Montréal, que s'achève cette émission, le quotidien des quotidiens du lundi 12 mars. Ici Hélène Denis qui vous dit merci d'avoir été là. Je vous invite à rester là puisque dans quelques minutes, j'anime les paractualités. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.